My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler ce matin. Je remercie chacun de vous de vos prières en ma faveur. Je vous suis profondément reconnaissant. Dans mes 49 années comme autorité générale, j'ai parlé plus de 200 fois à la conférence générale. Je suis maintenant dans ma 97e année. Le vent souffle et j'ai l'impression d'être la dernière feuille sur l'arbre. En fait, ma santé est tout à fait bonne, en dépit de tout ce qu'on peut raconter. Des médecins et des infirmières compétents me gardent sur la bonne voie. Et il y en a parmi vous qui partiront peut-être avant moi. Néanmoins, en étant tout à fait conscient de mon âge, je souhaite vous rendre mon témoignage des vérités fondamentales de cette œuvre. J'admets ne pas connaître toutes choses, mais il y a des choses dont je suis certain. Ce sont les choses que je sais, dont je vous parle ce matin. Quand il s'est converti au christianisme, l'empereur Constantin s'est rendu compte de la désunion qui régnait au sein du clergé au sujet de la nature de la divinité. Pour essayer de résoudre ce problème, il a réuni en l'an 325 des ecclésiastiques éminents de son temps à Nicée. Chaque participant a eu l'occasion de donner son point de vue. La dispute n'en est devenue que plus violente. Comme il était impossible de se mettre d'accord sur une définition, on a opté pour un compromis. C'est ce qu'on a appelé le credo du Concile de Nicée. Et la plupart des fidèles chrétiens en récitent les éléments de base. Personnellement, je n'arrive pas à le comprendre. C'est un credo que je trouve très confus. Comme je suis reconnaissant que dans l'Église, nous ne nous basions pas sur aucune déclaration formulée par les hommes sur la nature de la divinité. Notre connaissance vient directement de l'expérience personnelle de Joseph Smith, qui, alors qu'il était encore un jeune garçon, a parlé avec Dieu, le Père éternel, et son Fils bien-aimé, le Seigneur ressuscité. Il s'est mis à genoux en leur présence. Il a entendu leur voix et il a répondu. Chacun était une personnalité distincte. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il ait dit à sa mère qu'il avait appris que son Église n'était pas vraie. Et ainsi, un des points de doctrine majeurs de l'Église est que nous croyons en Dieu, le Père éternel. C'est un être, il est réel, c'est une personne. Il est le grand gouverneur de l'univers. Et cependant, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous le prions et ses prières sont une conversation entre Dieu et l'homme. Je suis assuré qu'il entend nos prières et y répond. Je ne pourrais pas le nier. J'ai eu trop d'expériences de prières exaucées. Alma a dit à son fils Helaman, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. » La deuxième grande certitude, dont je suis sûr, trouve, elle aussi, son fondement dans la vision de Joseph le prophète. C'est que Jésus vit. Il est le Christ vivant. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament, est le Messie du Nouveau, sous la direction de son Père. Il a été le Créateur de la terre. L'Évangile de Jean s'ouvre sur ces mots remarquables. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notez en particulier ce dernier verset. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il a été le grand créateur. C'est son doigt qui a écrit les commandements sur la montagne. C'est lui qui a quitté sa demeure royale d'en haut et est venu sur la terre, est né dans les plus humbles des circonstances. Pendant son bref ministère, il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts et réprimandé les scribes et les pharisiens. Il a été le seul homme parfait à jamais marcher sur la terre. Tout cela faisait partie du plan de son Père. Dans le jardin de Gethsémané, il a tant souffert que des gouttes de sang sont sorties de ses pores tandis qu'il suppliait son Père. Mais tout cela faisait partie de son grand sacrifice expiatoire. Il a été saisi par les émeutiers, a comparu devant Pilate, tandis que les émeutiers réclamaient sa mort à grands cris. Il a porté la croix, l'instrument de sa mort. Sur le Golgotha, il a donné sa vie en s'écriant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Son corps a été tendrement couché dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais 3 jours plus tard, en ce premier matin de Pâques, le tombeau était vide. Marie de Magdala lui a parlé, et il lui a parlé. Il est apparu à ses apôtres. Il a marché avec 2 étrangers sur le chemin d'Emmaüs. Et, nous dit-on, il a été vu par environ 500 autres personnes. Il avait dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. » Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. En effet, il est apparu aux personnes assemblées, au pays d'abondance, en Amérique. Il y a instruit le peuple, comme il l'avait fait dans le vieux monde. Tout cela est rapporté en détail dans le livre de Mormon, qui se tient comme second témoin de la divinité de notre Seigneur. Et pour le répéter, son père et lui, tous deux sont apparus au jeune Joseph, le père présentant le fils en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » La chose suivante dont je suis certain et dont je rends témoignage, c'est l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Sans elle, la vie n'a pas de sens. C'est la clé de voûte de l'arche de notre existence. Elle affirme que nous avons vécu avant de naître dans la condition mortelle. La condition mortelle n'est qu'un tremplin vers une existence future plus glorieuse. La douleur de la mort est atténuée par la promesse de la résurrection. Il n'y aurait pas de Noël s'il n'y avait pas de Pâques. Je parle ensuite des grandes certitudes qui ont accompagné le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a le rétablissement de la prêtrise, c'est-à-dire de l'autorité donnée à l'homme de parler au nom de Dieu. Cette prêtrise est de 2 ordres. Le moindre, également connu sous le nom de prêtrise d'Aaron, a été rétabli par Jean-Baptiste. L'ordre supérieur de la prêtrise, celui de Melchizédek, a été rétabli par les mains de Pierre, Jacques et Jean. En rétablissant la prêtrise d'Aaron, Jean-Baptiste, ressuscité, a posé les mains sur la tête de Joseph Smith et d'Oliver Cordery et a dit, « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. » Dans ses vieux jours, le président Wilford Woodruff a parlé aux jeunes hommes de l'Église et a déclaré, « Je désire que vous vous imprégniez bien du fait que cela ne fait aucune différence, qu'un homme soit prêtre ou apôtre, tant qu'il magnifie son appel. Un prêtre détient les clés du ministère d'ange. Jamais dans ma vie, comme apôtre, comme 70 ou comme ancien, je n'ai eu plus la protection du Seigneur que pendant que je détenais l'office de prêtre. » La prêtrise du Melchizédek ou prêtrise supérieure donne aux hommes le pouvoir d'imposer les mains et de donner aux autres des bénédictions. Ils bénissent les malades. Comme Jacques le dit dans le Nouveau Testament, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Je parle enfin des bénédictions de la maison du Seigneur qui découlent du rétablissement de l'Évangile originel. Ces temples que nous avons considérablement multipliés ces dernières années offrent des bénédictions que l'on ne peut obtenir nulle part ailleurs. Tout ce qui se passe dans ces maisons sacrées a un lien avec la nature éternelle de l'homme. Ici, Marie, femmes et enfants sont scellés ensemble en tant que famille pour toute l'éternité. Le mariage n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il est pour toujours, si les parties vivent de manière à être dignes des bénédictions. La plus remarquable de toutes est l'autorité d'accomplir une œuvre par procuration dans la maison du Seigneur. Ici, des ordonnances sont faites pour les morts, qui n'ont pas eu l'occasion de les recevoir de leur vivant. On m'a récemment parlé d'une sœur veuve à Idaho Falls. Pendant 15 ans, elle a donné l'occasion à 20 000 personnes de recevoir par son intermédiaire leur dotation au temple d'Idaho Falls. Elle a accompli sa 20 millième dotation un vendredi et est retournée le samedi pour en faire 5 de plus. Elle est décédée la semaine suivante. Pensez un peu à ce que ces petites femmes ont réalisé à elles seules. Elle a accompli ses dotations par procuration pour autant de personnes qu'il y en a d'assemblées ce matin dans ce centre de conférence. Pensez à l'accueil qu'elle a dû recevoir de l'autre côté. Voici, mes frères et sœurs, c'est mon témoignage que je rends solennellement devant vous. Que Dieu vous bénisse tous, saints des derniers jours fidèles. Puisse la paix et l'amour régner dans votre foyer et la foi et la prière vous guider dans tout ce que vous entreprenez. C'est là mon humble prière au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Et nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont participé à la session de quelque manière que ce soit. Le chœur chantera « Ô mon Père ». Ensuite, Wong Yongko des 70 fera la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14 heures cet après-midi.